Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague International en français. Comme chaque samedi, nous vous proposons un programme culturel. Nous commencerons avec un peu de littérature, avec l'œuvre de l'autrice Lucie Faulerová, qui, à tout juste 32 ans, a déjà obtenu le prix de littérature de l'Union européenne pour son roman Smrtholka. Puis, en deuxième partie d'émission, nous parlerons de cinéma et d'ambiance de Noël en même temps. Et ce, alors que la sortie prochaine sur les écrans tchèques d'une nouvelle adaptation de Cendrillon provoque une controverse dans les médias et la société tchèque. En effet, dans ce remake norvégien de la très populaire adaptation tchèque « Trois noisettes pour Cendrillon », deux hommes s'embrassent sur la bouche. Pas grand-chose à voir donc avec la version tchèque originale qui date de 1970. Même si, c'est évident, les contes de fées à la télévision font toujours recette. Mais avant de parler d'adaptation télévisée de contes de fées, parlons tout d'abord de littérature pure et un peu dure.
Rencontre littéraire.
Jeune autrice originaire de Pardubice, Lucie Faulerová est lauréate du prix de littérature de l'UE 2021. Dans une prose rythmique et sonore, ses romans explorent des tragédies familiales ainsi que la façon dont ses personnages, causeux ou taiseux, y font face ou pas. Écrivaine et rédactrice littéraire, Lucie Faulerová a étudié la bohémistique. Paru en 2017, son premier roman, L'Apache Prahu, ni à poussière en français, présente l'histoire d'Anna, une opératrice de centre d'appel de 28 ans, qui vit seule dans un appartement rempli de bibelots prenant la poussière. Elle ne voit pas grand monde à l'exception de sa sœur Dana, et sa vie est un interminable flot d'un sardonique dialogue interne. Anna est une âme blessée, marquée par un traumatisme d'enfance, la mort subite de son père. Nul ne sait s'il s'agit d'une mort naturelle ou d'un assassinat. Et si c'était le cas, qui est l'assassin? La mère d'Anna ou bien Anna elle-même? Ce roman explore donc un thème classique de la littérature, celui du crime et du châtiment au sein d'une famille. Ce premier roman a été nominé pour le prix littéraire tchèque Magnesia Litera. Intitulé Smrtholka et publié en 2020, son deuxième roman a lui aussi été nominé pour ce même prix. Il a par ailleurs été récompensé du prix de littérature de l'UE 2021. Son titre, Smrtholka, fait référence à la déesse slave de la mort, plus connue sous le nom de Morana. Morana évoque également la tradition slave du passage de l'hiver au printemps. Passage marqué par un rituel qui consiste à jeter dans un cours d'eau une figurine représentant la mort. Lucie Faulerová explique pourquoi elle a choisi ce titre pour son roman.
Smrtholka, c'est un synonyme de Morana ou Marjena, la déesse slave de la mort. Mais ce nom peut également désigner plusieurs des personnages féminins de mon roman.
Dans un entretien accordé récemment au Centre littéraire tchèque, Lucie Faulerová justifie sa fascination pour la mort et le suicide, ainsi que la présence récurrente de ces thèmes dans ses romans. Elle estime que dans toutes les choses qui l'attirent, il y a une part de terreur. La terreur fait sans doute partie intégrante de la fascination. Cependant, selon elle, il serait réducteur de voir la mort comme le thème principal du roman Smrtholka uniquement parce qu'elle y est explicitement mentionnée. Voyons donc plutôt le roman Smrtholka comme une mosaïque qui s'articule autour d'une fratrie de trois, d'une mère absente et d'un père qui fait ce qu'il peut. elle explore l'hésitation entre mourir et continuer à vivre après une tragédie familiale. Dans ce récit fragmenté, Marie, la protagoniste, est assise dans un train. Les paysages défilent et s'effacent, les souvenirs réapparaissent et se dérobent, les questions restent. On parle peu dans la famille de Marie. Aucun de ses membres n'a jamais demandé à haute voix pourquoi la mère les avait quittés. Et surtout, nul ne sait pourquoi la sœur dont Marie était si proche s'est suicidée. D'ailleurs, personne ne dit tout haut qu'elle s'est donné la mort. La famille tient à ce que son décès soit présenté comme les suites d'une longue maladie. Marie se sent coupable de sa mort, entourée donc d'incompréhension et de non-dits. Elle voudrait comprendre et pour cela, elle s'intéresse avec une passion obsessionnelle à tout ce qui touche, de près ou de loin, au suicide. Le livre présente un certain nombre de statistiques, parfois vraiment étranges, liées à ce thème. Lucie Faulerová explique qu'elle n'a nullement inventé ces informations.
Tout comme le personnage principal, j'ai fait énormément de recherches sur le sujet et appris beaucoup de choses très intéressantes et parfois vraiment bizarres, qui figurent d'ailleurs dans le livre. Par exemple, il existe des personnes capables de se pendre en position accroupie. Cela me semble vraiment fascinant de réaliser que le désir de ne pas vivre est tellement fort qu'il va totalement à l'encontre de tout instinct de survie dont nous disposons normalement.
Dans le premier roman de Lucie Faulerová, la protagoniste cherche elle aussi à faire la lumière sur un passé on ne peut plus sombre. Mais la frontière entre réalité et fabulation est ténue et la relativité de la mémoire rend les souvenirs bien subjectifs. Ainsi, la version donnée par Anna, le personnage principal, diffère de celle du narrateur, dont on ne saurait d'ailleurs dire s'il est là pour fournir un compte-rendu officiel ou s'il n'est qu'une voix dans l'inconscient d'Anna. Anna est un personnage on ne peut plus volubile. Opératrice dans un centre d'appel, elle parle toute la journée au travail et continue en monologue une fois chez elle. Extériorisant sa rage, elle se répète, réitère des maximes personnelles, insiste sur le fait que sa vie est la pire qui soit, émet des onomatopées et autres sons. À l'inverse, Marie, le personnage principal de Smrtholka, ne parle plus à haute voix, et elle ne le fera peut-être plus jamais. Mais on ne le comprend pas tout de suite. Tout comme on ne comprend pas immédiatement les titres des différents chapitres, qui sont en fait des retranscriptions des mots « introduction »,« première partie », »,« épilogue », tels que les prononcerait la protagoniste si elle osait prendre la parole. Le mutisme de celle-ci n'empêche pas Smrtholka d'être un roman très sonore. Tout d'abord parce que le train dans lequel se déplace la protagoniste est bruyant et que ses sons sont matérialisés dans le récit. De plus, comme dans le premier roman de Lucie Faulerová, les redondances d'onomatopées, interjections et mots inventés donnent une dimension acoustique forte et marquante à ce récit. Lucie Faulerová explique d'ailleurs que le rythme de ce roman lui a été dicté par une œuvre musicale. C'est la pièce de Max Richter intitulée « Infra 5 ». Quant à son premier roman, il a lui aussi été guidé par la musique. Il s'agit cette fois-ci de timelapse du compositeur Michael Nyman. Dans les deux cas, l'écriture a pour elle été synonyme d'état véritablement fiévreux. Ni le roman L'Apache Prahu, ni celui de Smrtholka n'ont encore été traduits en français, mais le prix de littérature de l'UE a donné au deuxième roman de Lucie Faulerová une visibilité certaine et bien méritée. Depuis, il a été réédité en République tchèque et va être prochainement traduit en espagnol, en macédonien, en bulgare, en italien, en serbe, en hongrois, en polonais et en croate. Lucie Faulerová travaille actuellement sur un projet collectif de scénario de film. Dans l'entretien accordé au Centre littéraire tchèque, elle a également expliqué qu'elle avait plusieurs idées en tête pour une œuvre de prose future. Et qu'elle les laissait tournoyer pour voir si cela la mènerait quelque part. Dans l'espoir d'un troisième roman, donc, on peut toutefois déjà présumer que pour le prix littéraire Magnesia Litera, la troisième tentative sera la bonne. C'est un rituel immuable au moment des fêtes de Noël. Tous les ans, les Tchèques se rassemblent autour du poste de télévision pour regarder des pohádky, ces contes de fées filmés, aimés des petits et des grands. Si ce phénomène est flagrant à Noël, la passion tchèque des contes de fées est plus générale. Elle commence dès le plus jeune âge avec la lecture des contes traditionnels et se décline au fil des années et jusqu'à un âge avancé avec les films inspirés de ces contes ou originaux. Bref, quand en France, à Noël, on rit en regardant « Le Père Noël est une ordure », en Tchéquie, on replonge dans l'atmosphère de son enfance avec des contes de fées, à regarder seul ou en famille. Un reportage d'Anna Kubishta.
Les pohádky sont un phénomène unique en leur genre et le rituel de Noël qui veut qu'on les regarde à la télé en famille l'est aussi, au même titre que le repas du réveillon à base de carpes frites et les cadeaux sous le sapin. Au milieu de l'immense production de contes réalisés sous le communisme essentiellement, mais depuis 1989 également, un film émerge. C'est « Trois noisettes pour Cendrillon », la version tchèque du célèbre conte de Grimm. Cette coproduction germano-tchécoslovaque de 1973 reste l'un des films favoris des Tchèques et il a même bénéficié d'un petit succès en France où il a été diffusé à plusieurs reprises à la télévision à partir des années 1970.
Tu connais la réponse à ma devinette ? Un visage barbouillé de suie, pourtant ce n'est pas armé.
Servi par une Libuscha Frankova plus que convaincante dans le rôle qu'il a rendu célèbre, cette version tchèque du célèbre conte est une adaptation pleine de poésie qui met en scène une Cendrillon dégourdie et malicieuse, bien loin de la Cendrillon guimauve de Walt Disney ou de la variante un peu gore des frères Grimm, qui n'a pas frissonné d'effroi en lisant que ses méchantes sœurs se coupaient les orteils pour pouvoir enfiler la fameuse pantoufle.
Un chapeau à plumes, une arbalète et un cheval tout blanc au galop, mais ce n'est pas un chasseur.
Popelka, Cendrillon en tchèque, elle tire à l'arbalète et fait du cheval comme un garçon, bien avant Me Too ou les Disney présentant des héroïnes moins potiches, elle montrait finalement aux petites filles qu'on peut être du sexe prétendument faible, mais actrice de son destin, même avec le coup de pouce de la magie indissociable des contes. La Cendrillon tchèque de ce conte filmé séduit en effet son prince tant par son adresse que par son charme, grâce à des tenues plus appropriées que ses haillons, toutes tombées de la coquille de trois noix. Magique.
La dernière, c'était une robe entièrement brodée d'or et d'argent, mais il ne s'agit en rien d'une princesse. Qui est-ce ?
C'est Cendrillon !
Plus que les deux robes de princesse, l'espiègle et courageuse Popelka est véritablement elle-même dans son costume de jeune chasseuse, tout aussi à l'aise pour chasser l'épervier que pour se repérer dans les bois et déjouer les tentatives du prince pour la retrouver. À côté, le prince, aussi joli cœur soit-il, est davantage présenté comme un cancre, plus intéressé par le cheval et la chasse que par les études. Et c'est l'amour suscité par Popelka qui, peut-on l'espérer, va finalement le faire mûrir. Tous les pays ont leurs contes de fées, leurs conteurs ou collectionneurs de contes. La France a Charles Perrault, l'Allemagne a les frères Grimm, donc le Danemark Andersen. En pays tchèque, les plus grands écrivains s'y sont aussi collés. Mais surtout, la popularité inconditionnelle du genre est dès le début liée à un aspect tout à fait particulier du réveil des nationalités au XIXe siècle, comme le rappelait il y a quelques années le critique de cinéma Michal Prochaska.
Ça fait partie de la tradition de la culture tchèque. Quand on remonte à travers le temps, jusqu'à l'époque du mouvement de renaissance nationale, en 19e siècle, on trouve que c'était très souvent, c'était normal que les écrivains tchèques, les personnages de ce mouvement, sont passés par le village, par le paysage tchèque pour collecter les contes de fées de la patrimoine de la littérature orale. Ça veut dire que, du coup, les écrivains ont essayé de consoler. En fait, c'était une sorte de consolation de la nation qui se trouvait dans une période difficile. Du coup, c'était aussi le moyen comment vraiment sauvegarder la langue et la culture tchèque, parce que la culture officielle et la langue officielle était allemande.
Les contes de fées comme échappatoire du peuple tchèque au XIXe siècle, le folklore populaire comme moyen de réhabiliter une culture, c'est aussi ce rôle de refuge que joueront les adaptations cinématographiques des contes de fées sous le communisme en Tchécoslovaquie. Un moyen pour les gens d'échapper à la grisaille du quotidien, voire à la peur. Michal Prochaska.
C'était aussi quelque chose de très naturel. Je me souviens que c'était normal quand j'étais gamin, quand j'étais très très petit. Ma maman m'a raconté des contes de fées, je sais pas, chaque soir peut-être. Hein. C'était quelque chose qui c'était quelque chose tout à fait engravé dans la culture.
Refuge pour le public, refuge également pour des cinéastes qui, tracassés par le régime, trouvent dans ces productions cinématographiques un lieu de liberté où exercer leur art.
Bon, du point de vue des réalisateurs, des gens du cinéma, c'était le plus sûr de tourner les contes de fées parce qu'il n'y avait presque aucune censure. Hein. Au niveau de l'histoire des contes de fées, tu aurais pu tourner n'importe quoi.
Miroslav Táborský est un comédien tchèque qui, comme beaucoup de ses collègues, a aussi souvent joué dans des contes de fées. Pour lui, les contes de fées tournés sous le communisme avaient également des vertus paradoxales de lieux d'expression libre.
Le régime a créé une situation particulière. Ce qu'il n'autorisait pas à travailler pour les adultes pour des raisons politiques, il les laissait travailler pour les enfants. Mais avec les marionnettes et les contes de fées, il était possible de s'exprimer de manière subtile. Certains contes de fées dissimulent cet aspect-là. Sous le communisme, les spectateurs lisaient entre les lignes et c'est aussi pour ça qu'ils aimaient certains contes et que le lien est resté jusqu'à l'heure actuelle. Par exemple, dans le film « La princesse follement triste », on peut retrouver des messages cachés autour des intrigues politiques et aussi sur la signification de l'amour dans ce contexte.
Certaines œuvres, comme par exemple La princesse orgueilleuse, Pyšná princezna en tchèque, n'échappent néanmoins pas à une certaine propagande idéologique, surtout dans les années 1950.
La propagande a essayé de recréer un certain nombre des histoires. Pour, par exemple, pour montrer comment un héros issu du milieu assez pauvre a finalement vaincu le roi, ou comment, par exemple, le roi était toujours le type méchant, alors que ce qui était l'héros, c'était plutôt son serviteur ou quoi.
Koruně ta moudrost není, v hlavě má jí pravý král.
Alors les Tchèques, un peuple de grands enfants naïfs, il y a un peu de cela, on regarde ce goût immodéré pour les contes. Pourtant, un personnage typique des contes vient un peu contredire cette idée. Un personnage qui n'est pas sans rappeler l'anti-héros censé symboliser le caractère tchèque, le brave soldat Švejk. Michal Prochaska.
Il faut prendre en compte que la culture tchèque était à l'époque quelque chose de marginalisé. Ça veut dire que la culture officielle, la haute culture, n'était pas forcément tchèque. Et le type des histoires qui ont survécu jusqu'à maintenant à travers ces contes de fées, c'est par exemple un personnage qu'on appelle Hloupý Honza en tchèque, ça veut dire j'ai un simple d'esprit peut-être. Et c'est quelqu'un qui issu de son environnement tout à fait ordinaire, d'un petit chalet, je sais pas, d'une petite village, part pour vaincre le dragon, pour réussir la main de la princesse, pour obtenir la moitié de leur royaume. Et du coup, comme il est genre simple d'esprit, il gagne pas forcément par son, comment dire, par sa capacité physique, par son intelligence, mais il gagne par sa façon d'être tchèque, d'être une petite personnage du paysage qui finalement dépasse toutes les rivales.
Už co to všechno znamená, už to vím, já vím, proč jsem veselá a zblažená. Oho, 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 já už to vím, já vím, vím už co je láska jako trám. Už to vím, já vím, vím už jak je dobře, že tě mám.
En attendant, tous les ans, Noël est l'occasion pour la télévision de diffuser films taillés sur mesure pour l'atmosphère de fête. Preuve de ce succès, qui ne s'est jamais démenti, l'engouement suscité par la production intitulée Anděl Páně du réalisateur Jiří Strach et qui rassemble une belle brochette d'acteurs tchèques connus. Après un premier opus sorti en 2005, déjà reçu avec enthousiasme, l'équipe a remis le couvert avec un deuxième volet des aventures de l'ange et du diable qui lui cherchent des noises au moment des fêtes de fin d'année. Lors de sa sortie en salle le 1er décembre 2016, Anděl Páně 2 a cassé la baraque, devenant le film tchèque le plus vu dès le premier week-end de projection. Six semaines après la première, 1 million de spectateurs avaient déjà découvert les nouvelles aventures des deux frères ennemis célestes. Et lors de sa première télévisée le 24 décembre 2017, il est devenu, avec 3 millions de téléspectateurs, le conte de fées le plus suivi des 15 dernières années. Si les scénarios de certaines productions sorties depuis la révolution de velours ne sont pas toujours à la hauteur, la réalisation est au moins toujours assez soignée, notamment en termes de décors et de costumes. C'était déjà le cas d'ailleurs sous le communisme, où l'on ne lésinait ni sur les moyens, ni sur le niveau de qualité de la production. C'est dans les célèbres studios de Barrandov qu'étaient notamment employées les petites mains des couturières chargées de créer les costumes qui ont fait rêver des générations de bambins et de leurs parents, comme on l'aura compris. Le professionnalisme des studios Barrandov n'est plus à démontrer au vu du nombre de productions internationales qui tournent des films en République tchèque, où on recourt au fonds d'accessoires. Il y a quelques années, des costumes du célèbre double film « Le boulanger de l'empereur, l'empereur du boulanger » avaient d'ailleurs été prêtés pour le tournage de la 4e saison de la série « Des Tudors ». Il suffit de jeter un œil au programme télévisé de la première chaîne publique Tchète Jedna ce 24 décembre 2018 pour se rendre compte que les contes de fées ont encore de beaux jours devant eux en République tchèque. Toute la journée depuis le matin, les contes se sont succédés les uns après les autres, qu'ils datent d'avant 1989 ou qu'il s'agisse de productions récentes. Clou de la soirée à partir de 20h40. Trois noisettes pour Cendrillon, bien sûr.
C'est la fin de cette émission culturelle hebdomadaire sur Radio Prague International, émission qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. Merci de votre attention et de votre fidélité. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site français.radio.cz. À demain pour un programme musical qui vous présentera des chants de Noël revus et augmentés par les artistes du projet musical Skoleduise. D'ici là, passez une excellente fin de journée. Ahoy!